Jean-Claude Larcher, c'est le temps de carême en ce moment pour les catholiques, pour les orthodoxes. Quel est le grand enseignement des pères sur le carême et cet enseignement, comment est-il adaptable pour nous, pour l'homme d'aujourd'hui?
Alors, le carême s'est toujours conçu comme un temps de préparation. En l'occurrence, nous préparons la fête de Pâques, mais aussi les grands événements de notre salut qui la précèdent, c'est-à-dire la passion du Christ et sa mort sur la croix. C'est une préparation qui est aussi un temps d'attente. Et justement, dans cette préparation qui est avant tout naturellement spirituelle, le corps est appelé à jouer un rôle, donc le jeûne et l'abstinence qui font participer le corps à cette attente à travers une faim physique qui doit se traduire comme une faim spirituelle. À travers les incidences de l'abstinence de certaines nourritures sur le corps, eh bien, nous attendons une certaine incidence aussi sur notre vie psychique et sur notre vie spirituelle. Et en général, il s'agit d'acquérir une meilleure maîtrise du corps, de reprendre possession par l'esprit sur toutes les forces du corps et de les mobiliser précisément pour ce que l'on attend vraiment du carême, c'est-à-dire une transformation intérieure. Une transformation spirituelle à travers une lutte contre les passions, à travers un progrès dans les vertus qui doivent nous amener à être plus étroitement unis au Christ.
Comment ce jeûne peut-il entrer dans notre vie psychique, transformer notre vie psychique et nous aider à voir d'autres automatismes?
Le jeûne a cette propriété de créer une faim, ça c'est évidemment son premier effet, mais cette faim affecte non seulement le corps, mais affecte aussi la vie psychique et la vie spirituelle. Donc c'est quelque chose qu'il faut évidemment organiser, parce que c'est pas spontané, je veux dire, on peut être affamé ou être végétarien ou végétalien sans que ça aboutisse à un effet spirituel quelconque. Donc c'est quelque chose qu'il faut être vigilant à organiser, cette combinaison entre le corps, l'âme et l'esprit. Justement, le jeûne a cette propriété de créer un certain état d'attente, un certain état de tension, mais c'est aussi quelque chose qui favorise la concentration, donc qui aide à la prière. C'est aussi quelque chose qui favorise la pénitence, parce que le carême est aussi un temps intense de pénitence. On ne peut progresser spirituellement que si vraiment on a conscience de ses fautes et de ses défauts en général, et si on a vraiment la volonté de s'en défaire et de progresser dans ce sens. Le jeûne est quelque chose aussi qui implique le corps profondément dans toute la vie spirituelle. Dans l'Église orthodoxe, nous avons ce sens de l'importance du corps dans la vie spirituelle, qui se traduit par exemple dans la vie liturgique orthodoxe par une abondance de signes de croix, de prosternation qui frappe souvent les gens qui ne sont pas familiers et qui vont dans une église orthodoxe pour la première fois. Alors pendant le carême, les prosternations sont également multipliées, les prosternations jusqu'à terre qui engagent l'ensemble du corps. Et puis le corps est engagé aussi naturellement dans la prière, et spécialement dans cette prière qui nous est chère dans l'église orthodoxe, qui est la prière de Jésus, à laquelle participent la respiration, le cœur et aussi la posture même du corps. Et donc, c'est vraiment le carême, une préparation et une transformation de l'homme total, esprit, âme et corps.
Alors, Jean-Claude Larcher, il y a toutes ces pratiques physiques, corporelles, pour une transformation spirituelle, mais parfois, y a-t-il pas un danger de se tromper et de se focaliser là-dessus, au lieu de se focaliser peut-être sur le désir du Christ, la fin du Christ?
Oui, vous avez tout à fait raison, mais justement, le jeûne n'est jamais une pratique indépendante qui a sa fin en elle-même. C'est-à-dire que c'est une pratique qui doit s'intégrer dans l'ensemble de la vie spirituelle, c'est-à-dire que ça doit vraiment aller de pair avec la pénitence, avec la prière, les pères y insistent beaucoup, avec une lutte contre l'ensemble des passions, c'est-à-dire de toutes les formes d'attachement que nous avons à nous-mêmes et au monde. Et donc, ce renoncement à la nourriture qui est caractéristique du jeûne va aussi de pair avec un renoncement à tout ce qui apporte de la jouissance au sens et tout ce qui apparaît comme quelque chose qui nous attache au monde et qui nous éloigne de Dieu. Et par conséquent, c'est un plan, si je puis dire, global qui est mis en jeu au cours du carême avec, par exemple, ce renoncement à la nourriture va de pair avec un renoncement avec les distractions mondaines, avec tout ce qui peut éloigner l'homme de cet effort de concentration sur Dieu. Et par exemple, c'est habituel aussi qu'il y ait un jeûne des spectacles. On ne va pas au spectacle pendant le carême. Et donc, il y a une sorte de jeûne des sens et de jeûne également de tout ce qui peut apporter des satisfactions qui peut-être parfois ne sont pas dangereuses ou mauvaises, mais qui, si vous voulez, nous attache à autre chose qu'à Dieu. Le mot d'ordre vraiment du carême, c'est d'augmenter notre attachement à Dieu et de nous rapprocher davantage de Dieu.
Et dans cette démarche globale, est-ce qu'il y a aussi ce désir à la fois d'une meilleure connaissance de soi pour justement ce que vous disiez, se reconnaître qui on est, c'est-à-dire pécheur, et aussi un rapprochement avec Dieu, une connaissance de Dieu plus lumineuse?
La connaissance de soi, disent beaucoup de pères, consiste d'abord dans la connaissance de ses propres péchés. Et alors nous avons une très belle prière que nous récitons plusieurs fois par jour pendant le carême, qui est la prière de saint Éphrem le Syrien, dans laquelle il y a plusieurs demandes, notamment celle-ci, « Donne-moi de voir mes péchés et de ne pas juger mon frère ». Et la connaissance de ses péchés, disent les pères, est la première étape de la connaissance de soi, parce que si on n'a pas la connaissance en particulier de tout ce qui nous sépare de Dieu, nous ne pouvons pas non plus trouver les moyens de nous rapprocher de lui. Tant que nous restons justement centrés sur nous-mêmes et attachés sur nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous attacher à Dieu et nous ne pouvons pas non plus nous attacher au prochain. C'est pourquoi il y a cette idée aussi très forte dans l'enseignement des pères que la charité ou l'amour n'est pas un simple sentiment, mais quelque chose qui présuppose tout un travail de détachement par rapport à soi et par rapport au monde, et toutes ces formes d'attachement au monde et à nous-mêmes qui sont en nous, c'est ce que nous appelons justement les passions. Et donc sans cette lutte contre les passions, et donc sans la connaissance précise des passions qui nous animent, souvent inconsciemment, nous ne pourrons pas non plus arriver à nous attacher véritablement au prochain dans l'amour spirituel, et nous ne pourrons pas non plus véritablement nous attacher à Dieu. Nous aurons peut-être l'illusion d'un amour, mais cet amour ne sera que quelque chose d'instable, ça n'aura qu'une réalité sentimentale et non pas la réalité spirituelle du véritable amour chrétien.
Parmi les grands orthodoxes que vous connaissez beaucoup, il y a l'archimandrite Sophronie que vous avez rencontré, qui est le biographe de saint Silouane. Saint Silouane qui disait, entre autres, « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas ». Est-ce que c'est une façon aussi d'entrer dans tout ce que vous dites?
D'une certaine manière, pour rattacher votre question à la précédente, c'est vrai que quand l'homme parvient à avoir la connaissance de son péché, il prend aussi conscience, si vous voulez, de ce qu'est l'enfer. Parce que qu'est-ce que c'est que l'enfer? L'enfer, c'est tout simplement un état spirituel dans lequel l'amour de Dieu est absent, non pas parce que Dieu ne donne pas son amour, il le donne toujours et à tout le monde, mais parce que l'homme refuse cet amour ou est, par son état spirituel, incapable de le recevoir par sa propre responsabilité. Et toute la vie chrétienne, à partir du baptême qui nous remet en union avec Dieu et qui donne la possibilité d'acquérir la grâce, eh bien, toute la vie spirituelle va consister précisément à essayer de combler cette distance qui originellement nous sépare de Dieu. Et toute la vie ascétique consiste à nous détacher de nous-mêmes et à nous détacher du monde pour être capable d'appréhender ce don que Dieu nous fait de sa grâce, et cela de manière totale, dès l'origine, c'est-à-dire dès que nous recevons le baptême, dès que nous sommes sur la voie de cette nouvelle vie qui nous est donnée par le baptême.